Je suis sûr que, je ne vais pas être le seul, quand on est là, en présence de Dieu, donc pour ce culte qu'on lui rend, donc c'est quand même, on est là parce qu'on est convaincu, et on aimerait, et notre joie serait tellement plus grande, si on avait à nos côtés, hein, le dimanche matin, quelqu'un de notre famille, quelqu'un de notre entourage, un voisin, ces gens qui en témoignent régulièrement. Et malheureusement, on n'a pas le pouvoir de les convaincre. Hein. Bon, ils savent qu'on est chrétiens, on voudrait. Et pour ces gens, ben, ils se battent avec les problèmes de la vie. Des fois, bon, il y a ces ténèbres un petit peu de l'ignorance, du doute. On les voit qui tâtonnent, parfois ils sont là. Certains tombent. On aimerait, et on se dit, ah, s'ils pouvaient. Hein, si on pouvait répondre à leurs besoins. Bon. Et quel est leur besoin, en fait? Ben, ils ont besoin d'y voir clair, parce qu'ils sont dans les ténèbres, en fait. Ils ont besoin d'y voir clair. Et c'est pour ça que, eh bien, donc, il leur manque la lumière, et quelle est cette lumière qui leur manque, en fait? C'est Jésus. Et où est-ce qu'ils vont trouver Jésus, normalement? Où est-ce qu'on va trouver Jésus, normalement? Dans le cœur de chaque chrétien. C'est là qu'on devrait trouver cette présence de Jésus. C'est pour ça que, vous voyez, le titre de ce que je vais vous partager, c'est qu'on doit se poser la question, est-ce que je brille dans un monde enténébré? Quelle est la lumière que je transmets de cette présence de Christ en moi? C'est quand même, c'est quelque chose d'important. Oui. Donc on va relire dans quelques instants ces paroles de Jésus qui nous dit à ses disciples et à nous, vous êtes la lumière du monde. Mais je l'avais déjà, donc prions le Saint-Esprit que vraiment ce matin, que Dieu nous parle au travers de cette parole qui est sa parole. Seigneur, nous prions ce matin pour que nos cœurs soient attentifs encore cette parole qui était inspirée par toi. Seigneur, c'est une parole qui vient de toi, par ton Saint-Esprit. Elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous convaincre, elle est là pour nous corriger, Seigneur. Elle est là pour nous faire grandir, vraiment, nous instruire dans la justice, hein, pour qu'on devienne vraiment ces chrétiens accomplis, matures, qui portent du fruit, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut. Et je te prie ce matin pour que ton Saint-Esprit parle au cœur de chacun, Seigneur. Hein, c'est pas une parole d'homme que nous allons entendre, c'est ta parole, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse encore, eh bien, mettre cette conviction dans nos cœurs, Seigneur, et apporter cette lumière dont chacun a besoin. Et on te le demande au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à lire ce passage en Matthieu. Hein, c'est Jésus qui parle à ses disciples. En Matthieu 5, verset 13, Jésus leur dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notez d'emblée que Jésus, il est en train de dire à ses disciples, il ne leur dit pas « faites entendre des bonnes paroles », même si par ailleurs, il va les inviter à les proclamer la bonne nouvelle du salut. L'un n'empêche pas l'autre. Mais ici, dans ce passage, notez que Jésus demande à ses disciples de briller, de montrer leurs œuvres pour que la gloire en revienne à Dieu. Et de fait, en général, les gens sont beaucoup plus interpellés parce que vous allez leur montrer le qui vous êtes, des résultats que vous avez, hein, de toute une conduite, de tout un ensemble. Hein, ils seront beaucoup plus interpellés que par vos paroles. Nos œuvres, elles parlent souvent pour nous, je dirais souvent mieux que nous. Les paroles ne suffisent pas. Et pour vous illustrer, de façon un peu amusante, imaginez que vous allez sur le marché, donc on entend là, hein, chacun veut vendre ses produits, hein, acheter les bons légumes du jardin, acheter, voyez, ces fruits qui ont mûri au soleil, acheter ce poisson fraîchement pêché, voilà, imagine. Et imaginez quelqu'un, approchez messieurs, mesdames, voilà, j'ai le secret, vous allez perdre 4 kilos en un mois, mais, hein, sans vous priver de nourriture, voyez, le produit amaigrissant. Hein, vous approchez, bien, ça m'intéresse, surtout les femmes, là, à l'hiver, on veut perdre quelques kilos, là. Et qui est-ce qui vend ce produit? Regardez. Quelqu'un énorme. On a envie de dire, oui, d'accord, un médecin, guéris-toi toi-même, c'est bien beau, commence par appliquer ton produit, puis on verra si c'est efficace. Bon. Vous allez un peu plus loin, et là, c'est autre boniment, là, c'est quelqu'un, voilà, un produit merveilleux, là, vous allez, en quelques semaines, vos cheveux vont repousser, un produit capillaire étonnant, hein, et puis, monsieur, il est chaud, on a envie de dire, bon, d'accord, tu mets ta lotion, on reviendra dans quelques semaines, et si ça pousse, ça sera efficace. Bon. Qui s'est pas fait avoir justement par des bonimenteurs? Bon, on parle bien, Souvent on achète le produit, on rentre chez soi, c'est pas si efficace que ça, on dit mince, si j'avais su, j'aurais pas acheté. Bon. Jésus veut pas qu'il en soit de même avec ses disciples. Bon, on va voir qu'il a apporté, il était cette lumière, on va reparler quelques instants, et il a communiqué donc sa vie, sa lumière à ses disciples, il a dit maintenant vous êtes la lumière du monde, donc soyez les témoins, que vos œuvres témoignent en faveur de mon Père, en faveur, rendre gloire à Dieu, donc ça c'est important. Mais surtout, que ce soit un témoignage et non pas un contre-témoignage. Et il ne suffit pas de se dire chrétien, il ne suffit pas d'avoir une étiquette. Vous savez pourquoi le poisson, les premiers chrétiens donc, se reconnaissaient par le signe du poisson, parce qu'en grec, le poisson se dit « ictus », et chaque lettre, les initiales donnaient « Jésus, Christ, Sauveur, Fils de Dieu ». Bon, ben, donc, et vous savez que beaucoup de chrétiens mettent toujours un poisson à l'arrière de leur voiture pour montrer qu'ils sont chrétiens. Si c'est le cas, c'est surtout pas le moment de faire des queues de poisson quand vous conduisez. Parce que là, il y a seulement contre-témoignage. Que de personnes, et j'entendais encore un témoignage il n'y a pas longtemps, sont devenues athées et fermées à tout message de l'Évangile parce que, étant jeunes, étant enfants, ils ont été violentés. Ils ont eu des sévices, parfois même des viols, de la part de gens qui se disaient, eh bien, des serviteurs de Christ. C'est terrible, ça. Un témoignage épouvantable. Un contre-témoignage qui a fermé carrément tout accès au message de la parole. Jésus a été catégorique, malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux lui attacher une meule de moulin et le précipiter au fond de la mer. C'est des paroles terribles. Mais scandaliser, ça veut dire quoi? Scandaliser veut dire faire tomber. Et on fait tomber comment? En général, par un mauvais exemple qu'on donne, même si c'est parfois notre insu, on ne sait pas. On est observé, on a des vues, on sait que les gens savent qu'on est chrétien, et c'est le mauvais témoignage. Je reprends l'exemple sur le marché, là. Vous avez un stand suivant, il y a quelqu'un, un chrétien qui veut donc distribuer la Bible, il a mis des posters, j'imagine. Alors sur les posters, on peut lire « Jésus, ma joie de vivre ». Jésus a transformé ma vie, Jésus a embrasé mon cœur de son amour, il m'a libéré de mes addictions. Enfin, c'est affiché. Et puis au moment où vous arrivez, déjà, vous entendez une violente dispute, là. Mais en fait, c'est notre chrétien, il est en train de se chamailler avec la voisine, là. Bon, il est en colère. Bon. Vous arrivez, il ne s'interrompt même pas, il ne vous salue pas, et tout. Et puis vous voyez un homme qui est vraiment. Il est mauvais, de regard est mauvais, il est là, il expose de colère, il tire sur une cigarette nerveusement, enfin, j'ai le tableau, vous savez, bon. Vraiment, tout le contraire de ce à quoi on s'attendrait. C'est quelqu'un qui tourne en rond, il est excité. Bon. Vous croyez que ce sera un bon témoignage? Non. Alors vous pouvez afficher, oh, Jésus a changé ma vie, Jésus a changé de vie. Bon, ben, pour dire tout ça, qu'en fait, le témoignage visible qu'on montre est souvent plus important que le témoignage audible que les gens vont entendre. On a plus à montrer qu'à démontrer. Et c'est pour ça que c'est bon, effectivement, des fois, allez, peindre les murs, il faut montrer sur les murs, pourquoi pas, on a des choses à montrer. Bon. Et pour bien situer maintenant ce projet de Dieu qui veut faire de nous des lumières dans le monde, on va revenir au départ. Vous savez qu'au début de la création, Genèse 1, première chose que Dieu a créée, c'était la lumière. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Pourquoi? Parce que c'était indispensable dans son projet de faire apparaître la vie animale, enfin, végétale d'abord, vie animale, et de créer l'homme à son image. Il fallait à tout prix qu'il y ait la lumière. Pourquoi? Parce que sans lumière, il n'y a pas de vie possible. Bon. Vous savez, à part quelques espèces particulières qui vivent sans oxygène et dans le noir, en tout cas, l'espèce humaine, elle a besoin d'air, d'oxygène, de lumière et de soleil pour être en bonne santé. Rendement l'hiver se termine, c'est bientôt le printemps. Qui n'aspire pas vraiment à être caressé par les rayons du soleil, ça fait du bien. Et non seulement ça fait du bien, mais c'est pour la santé, c'est vraiment indispensable. Bon, c'est vrai que le soleil, dans quelques instants, on va voir la végétation, ça bourgeonne, la sève remonte dans les branches, on va voir des fleurs, il y aura les fruits. Bon, tout ça, ça c'est du niveau végétal, mais pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est aussi important. Vous savez que les spécialistes de la santé se sont aperçus que beaucoup de maladies, l'hiver, viennent non pas du froid, mais d'un manque d'ensoleillement. Il y a le fameux blues hivernal là, qui a été répertorié, donc c'est une sorte de déprime, parce qu'on manque de soleil. D'où la thérapie qui est proposée, on appelle la luminothérapie. On baigne les gens dans un faisceau lumineux, enfin, dans la lumière. Et ça pourrait faire d'une part, ça fait du bien aux cellules, et surtout même la lumière, on s'aperçut, elle va par une glande qui est dans le prolongement de l'œil, une glande qui agit sur l'humeur, ça stimule cette glande, en fait ça vous rend de bonne humeur, et ça agit même sur l'horloge biologique interne. Enfin, bon, en fait, il faut dire que la lumière c'est important déjà pour le physique, mais c'est important pour le moral, c'est important pour le spirituel. Et on sait très bien que, on pourrait dire que la lumière permet de voir tout ce qui est beau, d'apprécier, ça permet de voir où on met les pieds, en tout cas. Et c'est vrai aussi moralement, spirituellement. Donc dire que le monde vit dans les ténèbres, ça veut dire qu'on a affaire à des personnes, elles ne savent pas trop où elles vont, elles ne savent pas où poser les pieds, elles tâtonnent, elles butent, et il n'y a pas la joie de vivre, il n'y a pas tout ça. C'est pas la forme. Et la Bible nous dit que Dieu est lumière. 1 Jean 1,5 nous dit, voici le message que nous avons entendu Jésus-Christ, nous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Et Jacques va dire aussi, il appelle Dieu le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dire que Dieu est lumière, Père des Lumières, ça veut dire que, en fait, Dieu est la perfection morale dans tous ses attributs. On sait que Dieu est amour, ça veut dire qu'il est l'amour parfait. Dieu est vérité, il est la vérité parfaite. Dieu est justice, il est la justice parfaite. Il n'y a aucune ombre, aucune variation, c'est luminosité, transparence totale pour Dieu. Et, entre parenthèses, si nous sommes fils du Père Céleste, on fera à me appeler, en fait, à reproduire les qualités tel Père, tel Fils. Jésus dira, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Donc, toutes ces qualités-là, on va être amenés, nous, à les reproduire. Je ferme la parenthèse. Donc, si on revient au départ, il y avait Adam et Ève, ils vivaient en compagnie de Dieu, ils étaient en compagnie de la lumière. Et on imagine que pour eux, tout était lumineux. Ils avaient la liberté, ils avaient la joie de vivre, ils avaient l'abondance, ils avaient même accès à l'arbre de vie, donc la mort n'était même pas là pour amener de l'ombre et les effrayer. Non, tout était bon. Il n'y avait pas de ténèbres dans le jardin d'Éden. Pourquoi ? Parce que Dieu était présent. Et ça ne plaisait pas à celui qui avait partagé la gloire de Dieu autrefois, Lucifer. C'est que Lucifer veut dire qu'il portait la lumière. Et Lucifer était chargé de rendre, d'orchestrer l'adoration avec tous les anges, à Dieu. Et on sait comment, dans son orgueil, il s'est dit, moi je vais prendre la place de Dieu. Bon, il s'est révolté. On sait que il a été précipité dans les abîmes, dans le royaume des ténèbres, où là, effectivement, jaloux de l'homme, il s'est arrangé pour faire que l'homme désobéisse à Dieu et chute à son tour. Et donc Satan a fait chuter Adam et Ève dans ce royaume de ténèbres. Et c'est pour ça qu'à cause de la désobéissance effectivement d'Adam et Ève, le monde dans lequel on vit est un monde enténébré. C'est un monde où Satan, il impose sa loi. Et là, on peut mettre tous les noms qu'on veut, l'immoralité, la violence, tout ce qui est mensonge, enfin tout le monde. Je ne détaille pas, mais c'est le monde dans lequel on vit, c'est un monde de ténèbres. Et c'est la réalité dramatique, malheureusement, du monde dans lequel on doit, nous aussi, malheureusement, vivre. Mais ça, ce n'était pas le projet de Dieu. Dieu voulait que l'homme vive à la lumière et à sa lumière. On est d'accord ? Donc Dieu a eu compassion de voir que Adam et Ève étaient tombés dans les ténèbres, mais il le savait en fait, ça n'a pas surpris. Pourquoi ? Parce que Dieu savait qu'en donnant la liberté à l'homme, l'homme en ferait mauvais usage. Donc Dieu, en fait, il avait prévenu déjà, ensuite il avait prévu et surtout il a pourvu. Et Dieu qui avait au départ éclairé le monde par sa parole, en faisant apparaître la lumière physique, Dieu avait prévu à nouveau d'éclairer le monde par sa parole incarnée, Jésus. Ça, c'était le projet de Dieu. Merci. J'ai rien dit, mais Colette a compris. Il n'y a pas besoin de parole, voyez. Et donc, ça, c'est le plan de Dieu, voyez. Pour dissiper les ténèbres, donc les ténèbres de la mort, voyez, c'est affiché là, en apportant la vie. Les ténèbres du mensonge et de l'erreur en apportant la vérité, les ténèbres de la haine et de la violence en apportant l'amour, les ténèbres de la tristesse et du chagrin en apportant la joie, les ténèbres de l'esclavage et de la prison en apportant la liberté, et les ténèbres du péché de la culpabilité en apportant son pardon et sa grâce. Bon. C'est vrai, évident de le dire, c'est bien de l'entendre, de le revoir, mais tout ça c'est vrai. Et ça c'était le plan de Dieu de toute éternité. Donc on n'est pas étonné lorsque Dieu, par la bouche de ses prophètes, et notamment le prophète Ésaïe, il va parler de ce serviteur qu'il a en vue d'envoyer pour son peuple, il va le présenter comme celui qui va être la lumière du monde. Vous pourrez relire dans Ésaïe 42 et Ésaïe 49, mais c'est ce titre, il sera la lumière du monde. Arrive Jésus, et Jésus, donc au début de sa vie publique, eh bien, première fois, donc, il rentre dans la synagogue, et on lui remet le passage d'Ésaïe 61, c'est le récit dans Luc, que vous trouvez dans Luc chapitre 4, et Jésus va lire ce passage d'Ésaïe qui se rapporte au serviteur qui a reçu une onction spéciale. Et Jésus attribue cette onction, il s'attribue à lui-même, il va dire donc « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs, sous-entendu ceux qui vivent dans les ténèbres des cachots, donc la libération, aux aveugles, le recouvrement de la vue, et aux opprimés, donc ceux qui sont opprimés par le poids d'un monde enténébré, Dieu suit pour apporter la délivrance. » Et Jésus s'identifie clairement à ce serviteur qui a reçu une onction spéciale pour chasser les ténèbres. Et il dira, effectivement, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » Et Jean écrit, Jean 1,9, « Cette lumière était la véritable lumière, celle qui venant dans le monde éclaire tout homme. » Donc Jésus, lumière du monde. Et effectivement, par rapport déjà à ce que je vous ai dit sur un monde enténébré, Jésus est venu apporter la lumière de quelle façon? Donc là, on peut faire ressortir plusieurs points. Tout d'abord, il a redonné sens à chacune de nos vies. Vous savez, je le dis souvent, mais une phrase sans verbe n'a pas de sens. Le monde, sans le verbe incarné, la parole de Dieu incarnée, le monde n'a pas de sens. Les gens qui refusent Jésus ne savent pas, mais leur vie n'a pas de sens. Bon, ils donnent peut-être un sens, mais elle n'a pas de sens, en fait. Bon. Ensuite, Jésus est venu tracer ce chemin de bonheur, de liberté qui permet de revenir au cœur de Dieu, mais il y a un abîme qui, entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, un abîme infranchissable. Mais Jésus, par sa mort, qu'on a rappelé tout à l'heure en prenant la Sainte Cène, c'est la mort de Jésus qui a permis le passage du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Ensuite, il a révélé qui était le Père. Jésus dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a révélé l'amour, il a rendu visible l'amour du Père pour ses créatures. Bon. Et surtout, il a fait éclater la gloire de Dieu, et notamment par ses miracles. Donc vous voyez, c'est tout des points qui nous montrent que Jésus, il a vraiment éclairé notre monde. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour manifester la vérité et la grâce de Dieu. Et ça, évidemment, le prince des ténèbres a tout fait pour empêcher Jésus, prince de la lumière, d'établir son royaume. Et il avait cru y avoir réussi lorsque, ayant fait mourir Jésus sur la croix, il s'est dit, ça y est, j'ai gagné, et de fait, Marc, Luc et Matthieu nous disent, au moment de la mort de Jésus, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité de midi jusqu'à 3h de l'après-midi, et le soleil resta entièrement caché. Étonnamment, c'est comme si la nature d'un seul coup 3 heures de ténèbres intenses, comme si la lumière du monde était partie. Mais Satan ne savait pas que la mort de Jésus, en fait, était la victoire de Jésus, c'était sa propre défaite. Et quelques jours après, Jésus va sortir du tombeau, éclatant de lumière, donc faisant briller sur notre monde, sa lumière, ce soleil de justice, en fait, sur un monde racheté. Et là, je voudrais donc attirer votre attention pour tout ça, on le sait. Maintenant, sur un détail. On ne fait pas attention à ça, c'est que Jésus a plus brillé par ses actes que par ses paroles. Parce que c'est vrai qu'il a parcouru les rues de la Galilée, bon, il enseignait les foules, il enseignait ses disciples, et beaucoup étaient étonnés, jamais homme a parlé avec autant d'autorité, c'est vrai, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais pourquoi les foules le suivaient surtout? C'était d'abord et avant tout par les miracles qu'il accomplissait, c'est sûr. Parce que non seulement Jésus, il affirmait des choses, mais il le prouvait par ses miracles. Par exemple, lorsqu'il guérit le paralytique qu'on lui amène, vous savez, par le toit, là, il est porté par 4 personnes sur une civière, bon, la première chose que Jésus va dire à cet homme, il dit « Tes péchés te sont remis ». Tout de suite, les gens s'étonnent, s'offusquent, Quel est cet homme qui se permet de pardonner les péchés? Tes péchés sont pardonnés, pardon. Donc, il se permet de pardonner les péchés. Et Jésus dit, qu'est-ce qui est plus facile? De dire à un homme, tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, marche maintenant. Prends ton grabat et marche. Et bien, pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, il dit à cet homme, lève-toi et marche. Et le paralysé s'est levé et a marché. On peut prendre maintenant tous les exemples des miracles de Jésus. Il va dire, je suis la lumière du monde, mais en même temps, il va rendre la vue aux aveugles. Il va dire, je suis le pain descendu du ciel, mais il va aussi nourrir des foules. Il dira, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et il mourra effectivement sur la croix, par amour pour nous. Il dira, je suis la résurrection de la vie, donc il va ressusciter Lazare, mais il va aussi, et le fils de la veuve de Naïm, mais il va aussi, il va ressusciter, se montrer ressuscité 3 jours après ça. Donc, Jésus a montré par ses actes. On peut lire en acte, vous voyez, 10-38, Jésus allait de lieu en lieu, en fait, il guérissait tous ceux qui, il faisait bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir, sous l'emprise de Satan, donc qui étaient sous l'emprise des ténèbres. Et non seulement Jésus a donné le témoignage, mais vous savez que dans la loi juive, pour qu'un témoignage soit recevable, il fallait qu'il y ait 2 témoins. Et bien, qui a témoigné pour Jésus en même temps? Son Père. Il dira toujours, je fais ce que je vois faire au Père. Mon Père, mais il remercie toujours son Père de l'avoir exaucé avant même de faire le miracle. Et mon Père est à l'œuvre jusqu'à maintenant, moi aussi je suis à l'œuvre. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Donc il y avait le témoignage du Père. Ça c'est important. Jésus, il a dit, et le Père confirmé par les œuvres. Mais étonnamment, quand on suit Jésus, il y a des passages dans la Bible, dans les évangiles, où Jésus, là encore, il ne disait pas grand-chose, même il ne faisait pas grand-chose, et ça suffisait pour qu'il y ait la conviction dans le cœur de ceux en face de qui se trouvaient. Je rappelle simplement, on va regarder dans l'évangile de Jean, l'appel des premiers disciples. Vous pouvez lire en Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste d'abord qui rend témoignage. Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. » C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi, il m'a précédé, il existait avant moi. » Et Jean-Baptiste va expliquer comment, lors du baptême de Jésus, il a vu l'Esprit sous forme de colombe, il a même entendu la voix du Père qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et il dira, « Suite à ce que j'ai vu, je l'ai vu de mes yeux, verset 34, je l'atteste solennellement, ce fils est le fils de Dieu. » Jean-Baptiste, il a eu cette conviction assez rapidement, et c'est surtout lors du baptême de Jésus, qui a été convaincu. Alors si on lit un peu plus loin, maintenant verset 35 à 39, dans l'évangile de Jean. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces mots, et suivirent Jésus. Jésus se retourna, voyant qu'il le suivait, et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. L'heure est notée, vous voyez, ça les a marqués, c'est important. Oui. Et donc le lendemain, on voit donc, verset 40, André, frère de Simon, Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jésus, et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier son frère Simon, lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus, il en regardait, il lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu rappelais ses faces. André passe la soirée avec Jésus. Ils sont allés voir où Jésus demeurait. Ça n'a pas dû durer longtemps, on n'en sait pas plus. Le lendemain, André est convaincu que Jésus est le Messie. Et il dit à son frère, Simon-Pierre, nous avons rencontré le Messie. Et sur lui, après, il y a Philippe, vous voyez, au verset 45, Philippe va rencontrer Nathanaël, il lui dit, nous avons retrouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes, voilà, Jésus Nazareth. Philippe lui dit, viens et vois. Parce que Nathanaël dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Philippe dit, viens et vois. Je vous cite ce passage pour montrer que qu'est-ce qui a donné la conviction dans le cœur? Eh bien, d'André, de Pierre, de Philippe, même de Nathanaël, c'est simplement le contact avec Jésus. ça se résume à peu de choses. Voici, voyez, regardez. Ils ont passé un moment avec Jésus et c'est ce qui les a convaincus. Ce n'est pas des grands discours. Hein. On ne vous rapporte pas. Jésus ne s'est pas mis à les enseigner longuement. Hein. Non, non. Hein, le contact. Et ça, c'est important parce que nous, en tant que témoins, souvent, on veut prouver quelque chose. Mais on n'a pas prouvé quoi que ce soit. Le témoin, il dit ce qu'il a vu, il dit ce qu'il vit. Bon. Hein, on n'a pas prouvé à convaincre qui que ce soit. Mais on doit amener les personnes à Jésus. Et c'est Jésus, en fait, eh bien, qui va convaincre la personne. Vous savez, on pourrait parler de l'exemple de la Samaritaine. Vous savez, quand elle vient chercher l'eau, bon, Jésus lui parle d'une eau qui désaltérera toujours. Elle dit, ben, donne-moi cette eau. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Bon. Elle lui dit, j'ai pas de mari. Jésus lui dit, oui, je sais, celui que tu as. Bon, tu as eu 5 maris. Bon. Il va se révéler comme le Messie. Que fait cette femme tout de suite après? Elle court à la ville. Elle dit aux gens, venez, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce ne serait pas Christ? Les gens viennent, hein, ils passent 2 jours avec Jésus, demandent à Jésus de rester, et on lit dans l'évangile, et bien, en fait, ces gens vont dire à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc la femme attire l'attention sur Jésus, les gens viennent, ils passent là 2 jours avec Jésus, et en fait, ils croient. La femme, hein, elle, son rôle, c'était les amener à Jésus. Donc, au contact de Jésus, au contact de cette lumière qu'il est, les cœurs vont se réchauffer, les cœurs vont être éclairés et vont devenir à leur tour lumière. Et ça, c'est notre défi, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, enfants de lumière, vivant dans le royaume de la lumière. C'est de laisser briller, pas notre lumière, mais la lumière que Jésus est en nous. En fait, laisser briller Jésus en nous. Vous savez, il ne s'agit pas de pédaler comme des fous, hein, pour produire, imaginez, une dynamo pour produire du courant, et je pédale, faut que ça brille, vous allez vous épuiser, puis la lumière ne sera pas terrible encore. Non. Ce qu'il faut, c'est, on avait été enseigné sur se reposer en Dieu, trouver le repos en Dieu. Pour la lumière, c'est pareil, il suffit de laisser briller la lumière qui est en nous. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un photophore? Un photophore, hein, c'est une coupe décorative en verre, en céramique, en terre cuite, paraffine, destinée à recevoir une bougie, en fait. Et quand le photophore il est éteint, c'est un objet, vous savez, quelconque, aucune utilité, ça passe inaperçu, ça vaut rien. Dès que vous allumez la lumière, tout de suite, on voit, il y a les pourtours qui apparaissent, il y a des fois des jolis dessins, ça peut être quelque chose de féerique, ça peut être très beau. Hein. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Mais il faut que la lumière brille. Eh bien, nous, on est pareil, on est, et l'image, hein, elle est de la parole de Dieu, on est des vases d'argile, à l'aspect bien fragile, c'est vrai, mais lorsque la lumière de Christ brille en nous, ça change tout. Et le psalmiste écrit, vous voyez, au psaume 18, 29, il dit « Tu fais briller ma lampe éternelle, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. » Et le verset qui suit, je vous lis, c'est « Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis des murailles. » Ça veut dire, hein, avec ta lumière que tu me donnes, je suis vainqueur sur mon ennemi. Et c'est un peu logique, parce que l'ennemi étant le prince des ténèbres, dès que Dieu m'éclaire de sa lumière, les ténèbres, elles s'enfuient. Bon, dit comme ça, c'est évident. Mais on a différentes illustrations. Là, je voudrais, par exemple, vous rappeler Gédéon. Vous savez comment Gédéon a remporté la victoire avec 300 hommes contre une armée de plus de 120 000 Madianites. Dieu avait bien précisé, au départ, il avait 20 000 hommes, il dit, ton armée est trop nombreuse. Dieu a fait le tri et il a voulu qu'il n'y ait que 300 hommes. Il a dit comme ça, ces hommes-là vont bien se rendre compte que la victoire, c'est moi qui la donne. Hein, ce n'est pas le contenu du rapport de force. Si vous êtes vainqueur, ce sera bien grâce à moi. Bon. Et vous relirez l'histoire de Gédéon, mais vous savez que comment la victoire est assurée. Chaque soldat avait un vase en terre avec un flambeau allumé dedans. Et puis donc, au signal, ils ont cassé le vase et puis bon, les ennemis, ils se sont entretués entre eux. Enfin bon, vous relirez ça. Mais c'est une illustration pour nous parce que l'apôtre Paul va dire, et là, vous prenez avec moi, en 2 Corinthiens, le passage de 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 6. Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc Paul explique clairement que ce qui nous rend fort, c'est cette présence de Dieu en nous, cette lumière qui est en nous. Et si vous lisez la suite, verset 8, Paul, il met bien en évidence les faiblesses de sa chair. Vous voyez, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais pas dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Donc, comprenez que dans ce corps qui est faible, dans ce corps qui n'est pas grand-chose, dans ce vase de terre, Jésus veut montrer que sa lumière brille, sa présence en nous, elle puisse briller. Et en fait, et là je vais vous en prie une image aussi, Dieu veut faire de nous comme des fenêtres éclairées au travers desquelles on va avoir sa présence en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté l'angoisse qu'on peut ressentir. Vous êtes la nuit, un endroit que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas où vous êtes, il n'y a aucun repère, et vous mettez à marcher au hasard, vous marchez pendant des heures, puis vous dites, ça y est, je suis perdu, vraiment, je ne sais pas où je suis. Puis d'un seul coup, au loin, vous voyez, ah, des lumières, une maison avec des lumières. Vous dites, ah, ça y est, l'espoir renaît, il y a quelqu'un, je vais trouver à qui m'adresser pour avoir du secours. Eh bien, Dieu, en quelque sorte, veut que nous soyons comme cette maison avec des lumières allumées. C'est-à-dire que on doit laisser filtrer cette lumière de la présence de Dieu en nous, ce qui suppose de ne pas baisser les volets, d'avoir des gros volets, et ce qui suppose de ne pas mettre des filtres épais sur les vitres. Et quand je dis ça, c'est quoi les filtres? C'est d'abord tout ce qui vient de notre nature charnelle. Paul va dire en Galates, là, Galates 5, il parle de cette nature pécheresse de l'homme libre à lui-même, et il énumère en fait tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, en fait. L'immoralité, la débauche, la magie, l'idolâtrie, les querelles, la haine, la jalousie, etc. Bon. Et il va préciser d'ailleurs, après, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'héritage des saints dans la lumière. Bon. Donc, et c'est vrai que si on se laisse dominer par cette nature qui nous pousse finalement, faire ce qui déplaît à Dieu, eh bien, on va regarder les autres avec un regard d'envie, de jalousie, de haine, et Jésus dira, si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. C'est-à-dire, la façon dont tu regardes l'autre, c'est comme si les fenêtres, elles sont fermées, là. Il n'y a pas de lumière qui sort de toi. Et tout autour de toi, ça va être des ténèbres. Et en fait, et dans le verset qui suit, par opposition, eh bien, Paul va parler du fruit de l'esprit, là, qui est l'amour, la joie, la paix, etc. Là, c'est le fruit de la lumière. L'opposition, elle est nette, et c'est dans les versets qui suivent. Bon. Un autre filtre à enlever, ça va être... Bon, on peut être... Là, Jésus est en nous, il veut éclairer, mais c'est le monde dans lequel on est, le monde avec tout ce qu'il peut mettre autour de nous, si vous voulez, des façons de faire, c'est des lois, c'est des spectacles, c'est des médias, tout ça, ça va cacher la lumière. Bon, ça on le vit tous les jours, malheureusement. Donc, c'est pas évident. Et surtout, après, il y a le Dieu de ce monde, qui, lui, nous met vraiment, il met un bandeau sur les yeux des gens pour que les gens ne voient pas. Eh oui. On peut lire en 2 Corinthiens, justement, 4, verset 3-4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, Satan s'arrange pour faire douter de la vérité de la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Et surtout, il veut bien que générer l'incrédulité, et ce faisant, il va rendre les gens aveugles. Vous savez, un athée, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. L'athée qui n'a pas Dieu, il est aussi aveugle spirituel. Il n'a pas Dieu spirituel. Il ne voit pas clair, spirituellement parlant. Et tant que le monde rejette Dieu, ben, le monde va être dans les ténèbres, c'est sûr. Alors comment, maintenant, rapidement, comment vivre maintenant en enfant de lumière? Mais il faut venir à la lumière. Vous savez, là, il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Dieu, après avoir créé la lumière, il sépara la lumière des ténèbres. C'est-à-dire, où vous êtes dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Où vous êtes dans l'obscurité. Vous savez, la pénombre, c'est ni la lumière ni l'obscurité. Paul qui veut mettre en garde les Corinthiens de fuir tout ce qui est mauvais, se séparer du mal, il va écrire en 2 Corinthiens 6, 14, 15, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Est-ce que Christ peut s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant et l'incroyant? Pour Paul, c'est clair. Le croyant doit vivre dans la lumière en évitant tout ce qui provient du monde des ténèbres. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de compromis possible. Jésus dira, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Mammon, qui est le prince des ténèbres, le prince du mensonge, le père du mensonge, et prétendre servir Jésus, qui est eh bien, le prince de la lumière, de la vérité et de la vie. Ce n'est pas possible. Donc il faut se poser la question, derrière qui je marche? Jésus a dit, celui qui marche derrière moi, eh bien, il ne marche pas dans les ténèbres. Et là, je vous pose, et posez-vous la question, est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien autour de vous? Quand je dis autour de vous, entourage, bon, c'est très vaste. Ça peut être au travail, chez, dans votre immeuble, partout. C'est important parce que le jour, d'abord ils vont vous regarder, les disciples, on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Ils n'avaient pas peur de le dire. Vous savez, chrétien fier de l'être, Jésus a dit, celui qui va me renier devant les hommes, je vais le renier devant mon Père. On ne doit pas avoir honte d'être chrétien, c'est important. Parce que le jour où les gens auront besoin, là ils viendront vous. Parce que, hein, et là ils vous demanderont peut-être des conseils, ils vous demanderont des explications. Mais ça doit se voir et il n'y a pas besoin de parler forcément. On a fêté il n'y a pas longtemps la fête des amoureux, c'était la Saint-Valentin. Eh bien, en général, vous savez, quelqu'un est amoureux, même s'il ne le dit pas, on s'en rend compte. Il est trahi quelque part. Bon. On doit être amoureux de Jésus, en tout cas lui il est amoureux de nous. Si on n'arrive pas à le faire sentir aux autres autour de nous, il y a un problème. Enfin, donc, il ne faut pas avoir peur d'afficher la couleur, et là, vous voyez, il faut être un chrétien authentique et pas en toque. D'ailleurs, il ne faut pas se dissimuler derrière un masque, parce que ceux qui mettent des masques, c'est pour ne pas être reconnus, souvent. Et c'est ceux qui ont fait un hold-up, on met la cagoule pour ne pas être reconnus. Bon. Ou alors, c'est ceux-ci, même en plein jour, eh bien, et en ce moment, c'est la période des carnavals. Bon. Le carnaval, c'est une fête qui célèbre le retour de la lumière. Et paradoxalement, comment les gens fêtent leur carnaval? Ils se cachent, en général. Ils se mettent sous un masque, et puis là, toutes les folies sont permises, parce que quand on est déguisé, on se dit, on ne me reconnaît pas, et on va faire toutes les bêtises qu'on n'oserait pas faire sans son masque. Et ça, c'est une erreur, parce qu'effectivement, c'est oublier que Dieu, il voit tout. Dieu, il voit au-delà du masque, ne l'inquiétez pas. Vous rappelez ce psaume 139, Éternel, tu me sondes, tu connais. Quand je suis assis, quand je me lève, tu sais, tu discernes ma pensée, mon Dieu, il sait tout. Bon. Et donc, mettre un masque qui s'appelle le masque hypocritos, donc être hypocrite, vouloir paraître autre qu'on est, ça déplaît beaucoup à Dieu. Cherchez pas à paraître meilleur que vous n'êtes, mais essayez de le devenir meilleur, c'est vrai. Mais donc soyons vrais, c'est vrai. Et alors, deuxième point, il faudra rechercher la sanctification du coup. Pourquoi? Parce qu'on a reçu quand même, en tant que chrétien né nouveau, une nature qui ne pêche pas. Donc essayons de vivre conformément à cette nature. Tout péché nous éloigne de Dieu et nous met dans les ténèbres. Bon, heureusement, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Donc chaque fois qu'un péché nous sépare de Dieu, empressons-nous de demander pardon et de retrouver ce contact avec Dieu qui est source de lumière. Mais surtout, je vais insister sur deux points, c'est que pour marcher dans la sanctification, il faut déjà marcher dans l'obéissance à la parole. Et là, vous savez comme moi que la parole, c'est quand même une lumière. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire qu'en lisant la parole, je sais ce qui plaît à Dieu, je sais ce qui est droit, ce qui est juste, ce que Dieu approuve, et je ne vais pas mettre les pieds n'importe où, c'est vrai. Donc, laissons-nous enseigner par la parole, jour après jour, et vivons en accord avec la volonté de Dieu. Et un deuxième point, c'est marcher dans l'amour. Et là, l'apôtre Jean, il est clair. Je vous cite simplement quelques versets. Si nous prétendons être en communion avec Dieu tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et si nous vivons dans la lumière comme Dieu est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et 1 Jean 2 dit « Celui qui prétend dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. » Donc, comme Dieu est amour, Si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, Dieu, il n'est pas en vous. Comme Dieu est lumière, il n'y a pas de lumière en vous, vous êtes dans les ténèbres. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. Bon, hein. Bon, c'est facile à dire, hein. Mais après, dans la réalité, mais c'est quand même ce qui se passe. Donc, quelle est la qualité de mon amour pour Dieu et pour les frères? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, vous connaissez la suite, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Hein. Donc, une église, elle ne peut pas illuminer, de toute façon, tout un quartier, s'il n'y a pas, j'ai envie de dire, la même alimentation, hein, les uns avec les autres, comme des ampoules, on est branchés sur le même fil, à la même source. Si ce n'est pas le cas, non. Vous voyez, dans cette, je dirais, l'amour qui nous relie les uns aux autres, c'est un peu comme un courant qui va relier différentes ampoules entre elles, sur le même secteur. Et quand je dis éclairer, hein, là j'attire votre attention, si vous éclairez le chemin, là, bon, la lumière c'est pour montrer le chemin, si vous voulez éclairer le chemin de quelqu'un, c'est pas pour lui braquer la lumière en pleine figure. Parce que la parole de Dieu est une lumière. Mais on n'est pas en plein interrogatoire en train de dire à quelqu'un, tu as tort, tu es coupable, tu es dans l'erreur, et puis on l'aveugle en lui braquant le projecteur sur lui. Bon. La lumière, on montre où est le chemin, hein, mais rappelez-vous les paroles de... C'est Pierre qui dit, soyez toujours prêts à répondre de votre foi avec respect et douceur. On ne sert pas des versets de la parole de Dieu qui sont des lumières, mais pour les éblouir les autres. Non, hein, c'est pour montrer le chemin et amener donc, à Jésus. Ben, c'est important quand même, il faut le savoir. Et enfin, donc un troisième point ici, c'est qu'en fait, il faut laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Hein, parce que c'est le Saint-Esprit qui, en fait, dans nos vies, ben, va glorifier Jésus. C'est lui qui va nous façonner à l'image de Jésus. C'est lui qui va donner cette puissance à nos paroles et qui va surtout convaincre celui de péché, de justice et de jugement. Et c'est aussi lui qui est source des dons spirituels. Parce qu'en fait, là, quand le don spirituel, hein, et j'ai parlé des miracles de Jésus, mais on aurait pu parler des miracles des apôtres aussi, hein, le Saint-Esprit, en fait, confirmait par les dons spirituels ce qui avait été annoncé. Mais c'est important. Hein. Et chaque fois qu'il y avait un miracle, on lit en Actes 5-12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Mais chaque fois qu'un miracle se produisait, tout de suite, les apôtres disaient « c'est au nom de Jésus que cet homme a été guéri et que ce boiteux marche. Au nom de Jésus !» Et ça, c'est le même esprit qui agit par le ministère de Jésus, qui agit par le ministère des apôtres, un même esprit, et c'est le même esprit qui doit agir par notre ministère. Ça, c'est important. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. On a besoin que le Saint-Esprit agisse en nous. Donc, il faut se poser la question, hein, de quelle lumière je reflète? Est-ce que je reflète les qualités de Jésus qui est en moi? Et qu'est-ce que je laisse percevoir de cette lumière qui est en moi? Vous savez qu'un objet phosphorescent, il émet, hein, une luminosité qu'après avoir, dans le noir, qu'après avoir été mis à la lumière. Vous avez tous fait l'expérience de ça. Eh bien, on doit s'exposer à la lumière, nous aussi, lumière de la parole de Dieu, lumière de la présence de Dieu, si on veut ensuite être phosphorescent dans le monde des ténèbres dans lequel on se trouve. Mais si on n'a pas cette exposition régulière à la parole de Dieu, eh bien, quelque part, on va être coupé de ce contact et on ne va pas éclairer. Donc, exposons-nous au rayon de la lumière de Dieu. Tel que nous sommes, bon, le cœur ouvert, on ne doit pas laisser de petits recoins cachés. Dieu, bon, il voit tout, hein. Ouvrons le cœur tout grand, hein, et laissons la lumière donc vraiment rentrer, hein, dans tous les coins et recoins. Et là, en disant ça, je repense à Adam et Ève. Vous savez, ils devaient sûrement avoir, avant péché, ils devaient avoir dans leur regard une luminosité qu'on ne peut pas imaginer, en fait, parce que, hein, ils étaient vraiment dans la transparence totale. Tout comme Moïse, hein, il est dit quand il avait passé 40 jours sur le mont Sinaï, quand il redescendait, son visage était lumineux. Il devait se cacher le visage, mettre un voile, tellement il rayonnait. Et le psaume 34,6 dit « Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. » Eh bien, vous voyez les tournesols, là. C'est pourquoi on appelle un tournesol. Parce que c'est une fleur qui, dans la journée, tourne en suivant le déplacement du soleil. Moi, je dis « Soyons des tourne-dieu », c'est-à-dire qu'à l'eau, ayant toujours le regard tourné vers Dieu dans tous nos déplacements et tout, pour recevoir cette lumière et pour pouvoir la renvoyer. Des tourne-dieux, mais pas des tourne-dos. On ne tourne pas le dos, Dieu. Hein, d'accord, bon. Et donc, laissons-nous vraiment inondés de la lumière. Donc passons des moments quand même en communion avec Dieu, des moments de sa parole. Et puis je vais quand même terminer par un encouragement. Des fois, on s'imagine que lutter contre les forces des ténèbres, c'est quelque chose de très difficile. Et des fois, au-dessus de nos forces. Et là, je vous rappelle ce que j'ai dit en début de message. Quand il y a l'obscurité, et comment on fait apparaître la lumière? On appuie sur le bouton, on établit le contact. C'est pas plus compliqué. Je voulais vous dire au début, il paraît que, est-ce que c'était vrai ou faux? On avait dit que Trump, sa première réunion avec ses conseillers à la Maison-Blanche, il a passé sa réunion dans l'obscurité parce qu'il paraît que personne ne savait où était l'interrupteur. Vrai ou faux, je ne sais pas. Hein. Bon. Mais ça illustre bien des fois. Alors. Là où c'est dramatique, c'est qu'on passe toute sa vie dans les ténèbres, hein, morales et spirituelles, parce qu'on sait pourrer le bouton, ce sera embêtant, ça. Bon, donc il suffit d'appuyer sur le bouton. Mais regardez bien l'image, là. Vous avez une ampoule qui est allumée, les autres ne le sont pas. Il ne suffit pas d'être au contact d'autres ampoules pour qu'elles s'éclairent. Elles ne se communiquent pas la lumière entre elles, les ampoules. Elles vont éclairer si elles sont branchées à la même source de courant. Eh oui, ça paraît évident. Mais même si vous retenez ce dessin, ça veut dire qu'on doit être branché. Si on veut éclairer, il faut être branché. Et être branché, ça veut dire qu'il faut veillons à ce contact dans notre relation avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Donc on est différent, hein, et ça doit se voir. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est témoignage et visuel. Hein. Une lumière, ça se voit. Bon, on peut faire un message, après proclamer la bonne nouvelle. Hein, mais montrez d'abord, après vous l'expliquerez. Parce que sinon, je vous dis, ce que vous allez montrer risque de discréditer ce que vous allez dire. Et mon souhait, c'est que Dieu puisse faire briller donc, toujours sur nous, hein, à travers nous et en nous, la lumière de son amour et de sa grâce. Donc la lumière qui est en nous ne doit pas s'éteindre. Et pour faire le lien avec le message de dimanche dernier, donc Jésus revient, bon, nous sommes l'épouse, elle doit se parer de ses beaux habits, elle doit être irréprochable, hein, elle va être rayonnante, lumineuse, c'est vrai, et surtout, il faut que nos lampes soient allumées. Et pour avoir une lampe allumée, ça veut dire qu'il y ait de l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, faut être rempli du Saint-Esprit. Et comment être rempli du Saint-Esprit? Il faut le demander à Dieu. Jésus dira, vous qui savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et le Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit qui se traduit par le baptême du Saint-Esprit, c'est cette puissance, c'est cette inondation de l'Esprit. Je crois que vous avez tous envie de briller, vous avez tous envie d'éclairer. Non. Eh bien, je crois que on va tous se lever, et on va prier Dieu de vraiment renouveler en nous les dispositions de notre cœur, vraiment qu'on soit réceptif, qu'on enlève tous les filtres, qu'on enlève tout ce qui peut nous empêcher de briller, c'est important quand même. Vraiment, j'avais à cœur de vous partager ça parce que on voit trop de gens qui sont dans les ténèbres, et puis des fois on ne sait pas quoi faire, essayons de briller. Et puis je crois que le Saint-Esprit fera grâce. Seigneur, on veut te remercier encore pour ce que tu as fait de nous, notre identité, Seigneur, on est tes enfants. Hein, on fait partie de ce royaume de la lumière que Jésus est venu inaugurer, instaurer. Hein, on est devenus ses enfants de lumière parce que le Saint-Esprit est dans nous, ton esprit est en nous, Jésus est en nous, ta vie est en nous, Seigneur. Et notre désir, eh bien, effectivement, c'est que on puisse éclairer ceux qui te cherchent, ceux qui sont encore éloignés, ceux qui ont besoin de savoir, eh bien, que tu as venu apporter cette vie éternelle, que tu es venu apporter ton pardon, que tu es venu apporter cette joie de vivre, Seigneur, que tu es venu apporter vraiment cette libération qui change tout, Seigneur. Et ce matin, eh bien, on veut te demander de faire de nous ces lampes qui éclairent, Seigneur. Comme tu as dit à tes disciples, nous sommes la lumière du monde, Seigneur. Et aide-nous ce matin, Seigneur, eh bien, à voir quels sont les filtres encore qui empêchent cette lumière de se diffuser autour de nous, Seigneur. Aide-nous à vraiment montrer, Seigneur, peut-être il y a certains péchés encore, que tu veux qu'on ait la victoire sur ces péchés, Seigneur, sur ces habitudes, sur ces comportements qui sont nuisibles, Seigneur. Mais aide-nous à nous libérer, Seigneur, de ce lien avec certaines attitudes, Seigneur, qu'on sache vraiment bien dire oui à tout ce qui est vérité, à tout ce qui est justice, à tout ce qui est pureté, à tout ce qui est, Seigneur, hein, vraiment approuvé par toi, Seigneur. C'est vraiment ce qu'on veut, Seigneur. Et notre désir, c'est vraiment de reproduire en nous les qualités qui étaient en Jésus, Seigneur. Jésus est notre modèle, et Jésus est vraiment celui que nous cherchons à imiter, que nous voulons imiter, Seigneur. Et nous te prions, Saint-Esprit, ce matin, eh bien, viens faire ton œuvre encore dans nos cœurs. Et nous t'ouvrons nos cœurs ce matin, nous sommes conscients que, eh bien, on est loin d'être parfait. Tu connais notre désir de pouvoir être utile, de pouvoir briller là où nous sommes, Seigneur, de pouvoir attirer à toi, c'est ce que nous voulons. Eh bien, Seigneur, viens nous remplir à nouveau de ton esprit, viens nous inonder, Seigneur, parce qu'on a besoin que ça déborde, on a besoin que ça se voit, on a besoin que ça s'entende, mais on a besoin, Seigneur, de faire la différence dans ce monde, eh bien, qui parfois se bouche les oreilles ou se ferme les yeux. Seigneur, donne-nous, au cours de cette semaine, eh bien, d'avoir la joie, eh bien, de voir des personnes être éclairées, non pas par nous, mais par toi, Seigneur. Au travers de nous, mais c'est toi qui m'éclaires. C'est vraiment ce qu'on se demande, Seigneur. Et merci, bien, de nous visiter ce matin. Tu sais où chacun en est, Seigneur. Et bien, agis, Seigneur. Agis, puissance. On croit que tu es là. On croit que, Seigneur, eh bien, cette parole qu'on a entendue, eh bien, qu'elle puisse résonner dans nos cœurs. Et Seigneur, agis par ton esprit. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.